Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous. On se réveille pour ce week-end tous ensemble et on va se donner le sourire, tiens, dans cette actualité un petit peu morose, avec du sport, avec des grands événements sportifs qui vont nous faire vibrer, qui vont nous faire veiller jusqu'au bout de la nuit et ne pas dormir pour certains d'entre nous. Bonjour Frédéric Weiss.
Bonjour.
Ça va Fred?
Mais oui, tu parles de pas dormir, tu passes à moi directement, c'est ça?
Bah oui, bien sûr. Enfin, je pense à nous tous, hein, en fait.
Oui, c'est vrai.
Parce que là, avec la Coupe du Monde qui arrive aussi. En fait,
on se prépare grâce à la NBA. On va enchaîner avec la
Coupe du Monde. C'est ça, bah, merci la NBA. Encore une fois, le basket.
Mais de rien, si on prend les sports mineurs, on est là.
Non, mais le concept de dormir, c'est complètement dépassé. Hein,
c'est surtout surfait.
C'est surfait.
Ça ne sert à rien.
Je suis quand même d'accord. Lui n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Bonjour Christophe Cessieux.
Bonjour. Moi, on va bien dormir sur le Tour de France. On va être couché tous les soirs à 9h. Après l'étape, on se lèvera.
Mais quoi, tu me parles des matchs? Il y a les matchs de Coupe du Monde à 3h du matin. À 4h du matin, à suivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.
Tu vas suivre et tu me feras un petit résumé le matin, comme ça sera bien.
Mais on écoutera tous ensemble, tu dormiras comme ça, tu te mettras en ton lit avec tes écouteurs, t'écouteras
Jean-Louis Touré avec la NBA, c'est des compétitions pour les vampires, tout ça.
Ouais, oui, mais méfie-toi justement.
Tu viens de me sucer le sang dans la nuit.
Exactement.
Tiens, voilà un de vampires à qui on retire son sang ces derniers jours. Bonjour Marc Madio.
Bonjour.
Ça va Marc?
Très bien.
Alors j'ai appris que les Mayennais avaient pas le sang comme les autres, c'est ça Marc?
On a un sang particulier, on vit sur le schiste.
Eh ouais, c'est incroyable ça.
Ouais.
Du coup, parfois ça peut être pratique de.
Ça fixe le fer dans le.
Eh ouais. Donc en fait, c'est quoi, vous êtes des hommes de fer voilà. De base en fait.
Exactement.
Incroyable, j'ai appris ça hier avec Marco, c'est pas sorcier quoi. Quand on a parlé au téléphone, je vais dire, on va peut-être éteindre la lumière, on va voir si c'était pas fluorescent. Pascal Duprat est là, salut Pascal.
Bonjour Georges, bonjour les amis.
Ça va Pascal?
Bonjour. Pleine forme.
Pascal, je suis sûr qu'il a déjà chez lui le calendrier de la Coupe du Monde. Tiens, ce match je vais regarder, ce match je vais pas regarder. Non, en fait, je vais tout ça.
T'as tout juste, Georges. Bien sûr. J'ai mis des priorités.
T'as mis des priorités?
Mais je vais en regarder beaucoup, très, très franchement. Ouais, je vais. Pas un effort pour moi, mais je vais regarder. Oui, je vais me lever la nuit ou je vais pas dormir.
Ouais, c'est ça. Oui, vous allez pas tous être très fringants peut-être, parfois le samedi et dimanche matin. Hein. N'est-ce pas, Fred? Allez, jusqu'à midi, au programme de vos grandes gueule du sport. Tiens, à 10h sur le ring, est-ce que ce Roland-Garros fait du bien au tennis? Finale féminine à suivre à 15h aujourd'hui sur RMC entre la Polonaise Chwalinska et la Russe Andreeva. Finale totalement improbable. Si on nous avait dit ça il y a deux semaines, la finale masculine opposera demain à Zverev à Koboli. Vous votez sur le compte XDGG du sport. Et puis sur le buzzer, on se demandera si le retour de Serena Williams à 44 ans, ce sera la semaine prochaine, est une bonne chose. À 10h30, Captain Weiss va mettre le brassard pour nous dire quoi, Fred?
Pour nous dire beaucoup de choses sur Wemby, et que pour Wemby, rien n'est impossible.
Rien n'est impossible, alors que les Spurs sont menés 2-0 après avoir perdu leur deuxième match à domicile face aux Knicks. Prochain match dans la nuit de lundi à mardi au Madison Square Garden. Le j'y crois pas avec la 26e et dernière journée de la phase régulière de Top 14. Là, il y a 4 équipes encore qui jouent leur qualif en barrage. L'UBB 6e au bord du précipice pour la qualif. Les Bordelais reçoivent Clermont adversaire direct à 21h sur RMC. Tous les matchs à suivre en direct dans le multiplex. Est-ce que l'UBB va prendre la porte? On va se poser la question. Le zapping, on va aller au Grand Prix Monaco, évidemment, dans quelques instants. Et le vestiaire, comment on gère quand tout déraille comme Aryna Sabalenka cette semaine? Christophe sera très attentif à cette séquence, la séquence du comment on gère un trou noir, parce qu'avec tous les trous noirs qu'il y a eu dans les jeux du sport cette saison, il va. On l'a fait pour toi, Christophe.
Merci,
tu prends des notes.
Sympa.
T'as pris un stylo en plus ce matin.
Un stylo en plus.
Non, mais bien sûr. Mais c'est Pascal qui a insisté pour qu'on le fasse ce vestiaire.
Ça m'étonne pas.
Je lui ai dit, tu penses vraiment, c'est pas un peu trop dur? Et finalement, voilà, on s'est dit, allons-y vraiment, ça peut lui servir. En fin d'émission,
je n'ai pas pu être sportif de haut niveau comme vous qui avez tous des mentales incroyables. Des manteaux. Tellement vous êtes fort.
Je crois qu'on dit des manteaux que ça. À vérifier. En fin d'émission, justement.
Débile, manteau, non?
participer aux jeux du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous pouvez remporter votre enceinte portable Mino X de Lexon, une enceinte alors qui est Bluetooth et flottante, Fred.
Comme ça, dans la piscine.
T'es dans ta pistoche, tranquille. Et t'as envie d'écouter de la musique. Habituellement, t'as ton enceinte, tu la mets, elle tombe dans l'eau.
C'est dangereux.
Et là, t'écoutes une musique et d'un coup. Et là, si tu peux continuer à écouter Shakira.
T'écoutes à quoi?
Voilà. Si tu pouvais déjà lui trouver un matelas pneumatique à sa taille, ce serait pas mal.
On n'a toujours pas trouvé.
J'ai une piscine à ma taille.
Allez, vous appelez pour participer au 32-16 touche 4 ou vous envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, ça y est, on y est là. J-5 avant le début de la Coupe du Monde de foot. J-10 avant France-Sénégal. Le match d'ouverture des Bleus dans le New Jersey. La première répétition avant-hier ne s'est pas tout à fait passée comme prévu.
RMC. La une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour Cherki. Le long ballon au second poteau avec Dayot, Pomme, Mécano. Et finalement, les Ivoiriens vont s'en sortir.
On va aller bosser un peu mieux peut-être, hein, ces coups de pied arrêtés offensifs, parce que là, on sent que personne ne savait trop ce qu'il fallait faire.
C'est un de nos objectifs importants.
Cherki, le but de Cherki pour ouvrir le score ici, au stade de la Beaujoire. Quel bijou de Cherki!
Il y a eu cette réaction, cet orgueil. C'est fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire.
Galadou qui va se présenter face à Mike Maignan. Le contre-pied et le but. L'égalisation.
Voilà. On n'est pas suffisamment solide sur nos jambes et beaucoup trop d'erreurs techniques.
Et le but pour la Côte d'Ivoire. Le coup de tonnerre ici à Nantes, à la Beaujoire. La Côte d'Ivoire s'impose 2-1 face à l'équipe de France. C'est un début de préparation à la Coupe du Monde qui s'accompagne d'une défaite pour les Bleus à domicile.
On va essayer de... Non, on va pas essayer, on va tout faire pour trouver la meilleure solution. Et s'il n'y a pas la meilleure, la moins mauvaise.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
C'est comment, Fred? C'est pas la meilleure solution,
c'est
là.
Allez,
si on va pas la chercher, le troisième étoile comme ça là. Bon, défaite 2-1 à Nantes face à la Côte d'Ivoire avant-hier. C'est la première fois que Didier Deschamps perd un match de préparation à la Coupe du Monde avec les Bleus. Hein. C'est pour ça qu'il était certainement un peu ému. On rappelle que ceux qui ont joué la finale de la Ligue des Champions ne participaient pas à cette rencontre. Le sélectionneur a effectué 10 changements en deuxième mi-temps. Dernier match de prépa pour l'équipe de France, c'est lundi soir à Lille face à l'Irlande du Nord. Ce sera évidemment à suivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Les GG, je vous pose la question ce matin. Est-ce que la défaite des Bleus contre la Côte d'Ivoire doit provoquer une remise en question? Pascal Duprat.
Non.
Marc Madio.
Oui.
Frédéric Baïs.
Évidemment, Marc Madio le dit, donc oui.
Ah oui, ça c'est un suiveur.
Je suis un suiveur de Marc Madio, un suiveur. Exactement.
Christophe Cessieux. Non. Non, ah, de oui, de non. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, j'ai déjà un message de Philippe qui me dit la défaite des Bleus, il faut la relativiser. Une remise en question, c'est pas l'expression pour moi. Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain à l'issue de cette rencontre.
Non, on minimise rien. En commençant ce match, on a l'air de gagner pour continuer sur notre dynamique. Comme on l'a dit depuis le début, on est en préparation. Et évidemment, c'est dommageable de perdre ce match, mais on va continuer à travailler et on sera prêt le jour J. Et on s'est procuré des occasions. Je pense qu'on a des pertes de balle qu'on devait éviter aussi sur transition. On a fait face à une belle équipe. Il y a deux trois choses à peaufiner, mais on reste confiant parce qu'on sait qu'on sera prêt quand ça va commencer.
Pas de remise en question, Christophe?
Non, il faut pas tout remettre en question tout le temps en raison d'une défaite comme ça, alors que les Bleus viennent à peine de se retrouver, qu'ils sont au bout d'une immense saison, que Deschamps a fait tourner énormément son équipe. Alors, en première mi-temps, ça tenait la route. C'était peut-être pas encore l'équipe de France qu'on verra peut-être en finale ou dans les phases finales de cette Coupe du Monde, mais ça tenait la route. Non, mais je pense que c'est ces changements qui ont un peu tout bouleversé. La fatigue aussi, le manque d'automatisme de certains défenseurs. Donc je pense pas qu'il faille tout remettre en question. En revanche,
on dit pas tout remettre en question. Ouais, on dit une remise
en question. C'est tout remettre en question.
Ah bah, non,
dire tout... voilà, vous êtes nul. Ah bah on remet tout à zéro.
Par exemple, voilà le problème. Par exemple, ne remets pas en question toutes les questions non plus.
Il faut savoir. Alors sois plus précis dans tes questions.
Ah bah non, mais c'est toi qui rajoute tes mots. Mais il est malin, ce mec.
Non, c'était très clair, Christophe.
Regarde toi par exemple. Si c'est très clair, moi je vous dis pas de remise en question. Mais en revanche, je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à l'équipe de France. Parce que cette équipe de France, elle arrivait au début de la Coupe du Monde avec avec l'idée qu'elle allait devenir championne du monde. Les journalistes de tous les médias disaient on va être champion du monde. Et on sait très bien que toutes les équipes de France, de tous les sports que ce soit, quand on te dit tes favoris, les Français ne savent pas faire. Donc voilà,
c'est pas une remise en question.
C'est pas une totale remise en question. Si, c'est une remise en question. Non, mais si tu veux jouer avec les mots, on peut jouer avec les mots.
Ne te laisse pas faire. C'est très bien ton argumentaire.
Je suis extrêmement fier de toi parce que tu remets toujours en question, les questions justement.
Mais pas
moi qui ai fait les questions, mais par contre, sur ce que j'ai compris exactement comme toi. C'est-à-dire que dans le sens, il faut une petite remise en question.
Toi, tu veux une petite.
Une remise en question. Il n'y avait pas de jauge de valeur.
Ah, mais je pensais, toi d'habitude, t'es toujours dans le grand. Une grande remise en question. En fait, c'est une petite remise en question.
Donc, on est bien avec nous, pas tous en même temps. Ça ne reste qu'un match amical, ne nous énervons pas. Tu es déjà excité. C'est beaucoup trop tôt le matin. Ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé, d'apprendre de ça. Et je suis d'accord. C'est vrai que tout le monde tend à dire que cette équipe de France va être championne, qu'on se voit en finale, que le reste c'est de la gnognotte. Donc moi je trouve que c'est une piqûre de rappel. Didier Deschamps d'ailleurs utilise ce terme-là. Et cette piqûre de rappel ne peut faire que du bien. Et à partir du moment où on emploie le mot piqûre de rappel, on considère que effectivement c'est important. Et moi je suis surpris que quelqu'un comme Pascal puisse dire non à la remise en question.
Il n'a pas écouté ce qu'il a dit encore.
Mais oui, mais il dit non par contre.
Il a dit non.
Et moi quand je vois un grand coach comme Pascal,
c'est le bolchevisme par excellence. T'as même pas parlé.
Non, c'est Fidel Castro en fait le mec en face.
En fait, ce qui me surprend quand un grand coach comme Pascal se dit on perd, on s'en fout, on change rien, ça me surprend quand même. Je dis que si tu ne progresses pas, tu n'avances pas dans le sport, Pascal. Tu le sais ça quand même.
Alors Pascal, j'allais te donner la parole, mais du coup maintenant ça s'est transformé en droit de réponse parce que là c'est presque une information.
En fait, Fred Weiss, il est moi, c'est Frédéric Weiss. Entre le consultant et bientôt le journaliste. Je veux simplement dire une chose. À partir du moment où tu perds et que tu es membre de l'équipe de France, sélectionneur de l'équipe de France, alors que tu restes sur 9 matchs sans défaite, que tu t'es qualifié brillamment pour la Coupe du Monde, que tu as le parcours de l'équipe de France depuis de nombreuses années, c'est pas parce que tu perds ton premier match de préparation alors que tu es en régénération, alors que tu fais 10 changements parce que tu t'accordes avec le sélectionneur ivoirien pour faire 10 changements pendant le match. C'est pas parce que tu perds 2-1 que tu dois tout bouleverser. Il y a des certitudes en équipe de France. OK, ces certitudes là, elles sont pas bousculées parce que la France a perdu contre la Côte d'Ivoire. Par contre, là où je vais un peu dans votre sens, c'est que Didier Deschamps, désormais avec sa chance traditionnelle, il montre encore une fois qu'il a de la chance parce qu'il a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, que les joueurs, s'il avait besoin de les tendre, ils sont tendus par ce match raté. Parce que n'oublions pas que nous avons affaire aux meilleurs joueurs français et pour la plupart les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Donc ils vont être tendus et on va voir la différence dès le deuxième match contre l'Irlande du Nord de préparation. Donc rien à remettre en question, ça ne veut pas dire pour autant que l'équipe de France n'est pas parmi les favorites sous prétexte qu'elle aurait perdu contre la Côte d'Ivoire. C'est un petit caillou dans la chaussure qui va être rectifié très rapidement.
Rectifié, c'est pas se remettre en question un petit peu ?
Mais non, c'est Mais c'est des réglages, c'est le lot de chaque professionnel du sport. Tu es toujours en perpétuelle remise en question. Tiens. Donc c'est en fait c'est un doux euphémisme que de poser cette question-là. Tous les sportifs se remettent en question, y compris quand ils gagnent, tout le temps, pour durer.
La défaite des Bleus doit-elle provoquer une remise en question ? Tiens, avant d'écouter Marc, je voudrais qu'on écoute Ryan Cherki à l'issue de la rencontre.
Comme je l'ai dit et je le répète, on n'ira pas à la Coupe du Monde pour être favori, on ira pour écraser tout le monde.
On ira pour écraser tout le monde. Alors que Didier Deschamps, il y a une semaine, était dans la communication de dire attention, on s'enflamme pas. C'était après une défaite. Ryan Cherki, on sait, très enthousiaste toujours dans la communication. Ça sert aussi à ça, finalement, les défaites aussi, de calibrer les dernières dissonances qu'il peut y avoir sur le terrain et même dans la communication, Marc.
Je suis sorti de ce match avec un sentiment de malaise. Alors la première mi-temps, oui, je suis d'accord avec vous, une bonne équipe, on marque un but. Jusque-là, j'ai envie de dire, on est dans le rodage de la Coupe du Monde. Mais ce que j'ai vu en deuxième mi-temps ressemblait à une bouillabaisse. J'ai pas vu des mecs qui étaient en préparatif de la Coupe du Monde. J'ai vu des mecs qui jouaient à la baballe.
Alors que c'est des joueurs qui doivent gagner leur place en plus, hein, par exemple.
Des mecs qui doivent gagner leur place. Alors, le bon côté de tout ça, c'est que Deschamps a le champ libre pour lui. Dire maintenant, t'as vu, t'as joué, tu m'as rien montré, donc c'est moi le taulier et l'équipe va ressembler à ce que je veux qu'elle ressemble pour les matchs officiels. Donc ça lui permet, je pense que Deschamps va se servir de ce qui s'est passé sur ce dernier match pour bien clarifier les choses, qui est qui et qui fait quoi.
Ça clarifie les statuts. Ouais.
Ça clarifie les statuts, ça c'est le bon côté des choses. Moi, ce qui m'a quand même ennuyé, c'est ce côté un peu amorphe. Et puis j'ai vu des petits signes entre les titulaires. Il y a un petit truc qui va pas.
Mais alors, est-ce que ça peut pas être aussi je sais pas, ce sont des matchs, on se souvient par le passé, il y a des grands joueurs français qui se sont blessés, hein. Zidane qui se blesse avant la Coupe du Monde en Corée du Sud, Christophe, je crois que t'étais sur place, ça avait été un feuilleton derrière, la blessure de Djibril Cissé également.
Il y a quand même un joueur qui pourrait, alors forcément, puisque c'est la star, le leader et le capitaine, c'est Mbappé. Je pense que Mbappé va avoir un rôle déterminant, non seulement sur le terrain, mais dans son attitude par rapport à l'équipe. Moi, c'est là où je suis peut-être un peu plus inquiet. Il faut pas qu'il fasse du Mbappé pour Mbappé. Il faut qu'il fasse du Mbappé qui participe à l'évolution de l'équipe de France.
Mais c'est pas cette défaite qui a modifié son statut en équipe de France, le rôle prépondérant qu'il va devoir tenir.
Je te fais part de ma petite inquiétude. J'espère qu'elle va rester petite.
Pourtant, tu m'as habitué à davantage d'optimisme, je dois reconnaître.
Oui, mais je suis très prudent parce que je.
Mais tu n'arrives pas à me foutre la trouille malgré tout. Ouais,
ton argumentaire.
Moi, j'ai une question pour toi, Pascal. Justement, tu dis que tu n'arrives pas à avoir la trouille. Je suis désolé, défensivement, depuis quelques temps, ça fait un peu peur. Et ce match-là ne nous a pas rassurés. Donc, dans la continuité, tu perds. Tu n'es pas rassuré défensivement. Tu n'as pas perdu de match de préparation.
Saliba n'était pas là.
Récurrent. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout changer et il faut s'alarmer sous prétexte que effectivement il manquait des joueurs, etc.
Oui, toi tu dis mais pas il faut s'alarmer. C'est une remise en cause. C'est une remise en cause.
Question
rappel.
Et défensivement, moi ça m'a toujours pas rassuré.
Ouais, mais il y a quelques approximations défensives, notamment en deuxième mi-temps, notamment sur les deux buts, bien entendu. Mais de là à dire que il faut s'affoler, d'abord Saliba n'était pas là.
Personne dit ça.
Fait le remarquer, Georges.
On est prudent.
Encore une fois, là aussi, non pas. Je veux pas comment dire. Remettre en question ce que dit Marc parce que c'est pertinent, mais malgré tout Didier Deschamps, pour ce qui est de son leadership, il n'a pas besoin de cette défaite pour l'avoir. Pour ce qui est de sa pertinence et aussi ses convictions, il les a déjà. L'équipe qui va démarrer contre le Sénégal, il l'a déjà en tête, mais il y a peut-être juste les rangs et les rôles de certains joueurs qui sont tout d'un coup bousculés, modifiés. Il est certain que Konaté n'a pas marqué des points, il est certain qu'au contraire Cherki en a marqué. Pour être un finisher, pour être un joueur qui termine, qui change le cours d'un match. Mais pour ce qui est de son style, à mon avis, il l'a déjà en tête. L'équipe de France ait gagné ou non contre la Côte d'Ivoire.
Ce qui m'inquiète, Pascal, c'est l'équipe type, effectivement, elle tient la route. Je veux dire, on a des arguments offensifs incroyables, même s'il n'y a eu qu'un but marqué quand même l'autre soir. En revanche, j'ai l'impression, au vu de l'entrée de tous ces joueurs en deuxième mi-temps, que le banc n'est pas aussi talentueux qu'on veut bien nous le faire croire. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tous les remplaçants, est-ce que le banc est du même niveau que l'équipe type?
Oui. Didier Deschamps, il dispose d'un effectif de grande qualité.
Même
tous les postes sont équilibrés.
Même à l'arrière,
on a des doutes sur les positions de latéraux. Qui de Digne ou de Hernandez? Est-ce que Koundé est le Koundé que l'on connaissait les derniers mois? Tous ces doutes-là vont être levés, mais bon, c'est les incertitudes, en fait, qu'un sélectionneur ne peut pas, couper, en fait. C'est les choix qu'il va devoir faire. Voilà. Pour moi, le choix cornélien de Deschamps, le seul, c'est Digne ou Hernandez. Question,
question.
Voilà. Et c'est, à mon avis, le gros de la compétition pour Deschamps, l'enjeu majeur de Deschamps, c'est de choisir le bon latéral gauche. Ouais, il le fera. Il choisit. choisira, on s'en a mes consciences.
Un central qui se blesse ou un latéral qui se blesse.
Mais c'est pas parce que Konaté a été moins bon sur ce match-là.
T'imagines, Saliba était pas là. Il était en récupération. Donc ça veut dire que tu auras normalement Saliba ou Upamecano. Quelle sélection dans le monde? Mais quelle sélection dans le monde pourra faire rentrer Ibrahima Konaté, qui est annoncé comme le défenseur du Real Madrid l'année prochaine, qui a peut-être pas fait la meilleure saison de sa carrière à Liverpool, mais qu'on mettait sur un piédestal il y a encore un an, mais je trouve que
depuis un an Konaté
bien sûr, mais regardons aussi les autres sélections l'Argentine même l'Espagne dans une moindre mesure, ils ont pas tous deux équipes tous deux équipes, ils sont pas doublés à tous les postes. Nous sur le banc de touche là on avait Cherki sur le terrain, on serait bien content de faire rentrer Cherki, on serait bien content de faire rentrer Barcola, on serait bien content de faire rentrer Marcus Thuram,
mais ils ont quand même pris deux buts contre une équipe qui est considérée pas aussi forte que notre premier adversaire de Coupe du Monde,
mais qui est une équipe qualifiée à la Coupe du Monde également. La Côte d'Ivoire,
une équipe qui tient la route. La défaite des Bleus international
doit-elle provoquer une remise en question? Tiens, j'ai plein de messages sur WhatsApp. Le Roi qui me dit ça sert à rien ces matchs à part blesser des joueurs et en perdre. On a tous vu que les mecs avaient les pieds sur le frein.
Ça sert à monter en pression.
Et ça sert à quelque chose peut-être justement à monter en pression. T'as raison, Marc. Et Olivier qui me dit merci à Weiss parce que tous les avis sont recevables. Il donne le sien et écoute celui des autres. Il écoute moins celui des autres.
Pas celui des autres.
Il est toujours mauvais, hein, votre avis à tous, mais je l'écoute.
Sur ces belles paroles, on se retrouve dans un instant. Tu as accès post fraîcheur, hein, comme à la prochaine Coupe du Monde, il faut s'habituer. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, au rythme de. Shakira,
évidemment.
C'est ça. De toute façon, Shakira, maintenant, c'est la bande originale des Coupes du Monde, hein, en fait. Hein.
Oui, enfin, en général, ça ne nous porte pas forcément bien bonheur, quand même.
Oui, c'est vrai que le Waka Waka.
Le Waka Waka, ça n'avait pas porté un bonheur fou.
On se rappelle de la chanson.
Oui, mais on se rappelle du bus.
On
et c'est tout, à peu près.
La fête,
toi, tu te rappelles surtout de Shakira, Fred. Ouais.
Oui, évidemment.
Les grandes gueules du sport. Tiens, on se pose la question. Est-ce que la défaite des Bleus doit provoquer une remise en question? Xavier sur WhatsApp au 06 12 424 424 qui nous dit. Ah, le traditionnel pessimisme français avant les grandes échéances porté par les journalistes depuis 1998. Mais non, mais attendez, on n'est pas pessimiste. Pas du tout. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on est assez optimiste.
Non, on veut que ce soit parfait. Donc, on va chercher les petits détails qui peuvent.
On n'était pas trop optimiste avant, justement, et que ce coup-là nous fait un peu de bien en disant OK, relativisons un peu, il va falloir faire des choses, il va falloir travailler. Tout n'est pas acquis. On est une très bonne équipe. On a deux équipes type, tu l'as dit. Mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut travailler. Quoi.
Pour comparer.
Donc en fait, cette défaite, elle est bien pour nous.
Mais eux,
ils sont déjà dans leur compétition. Ouais.
Elle est idéale pour des gens. Tu comparais, notre auditeur comparait le pessimisme de 98.
À l'avoir.
J'ai vu un doc cette semaine, justement, qui parle de l'été 98. Et effectivement, quand tu écoutes les sorties de Jérôme Bureau, qui était le patron de l'équipe à l'époque, c'est d'une violence à l'égard.
Avant le coup,
pas de cette violence à l'égard de Aimé Jacquet.
Ah ouais.
C'est d'une force. Waouh, waouh, waouh.
Mais
là aujourd'hui, tu dirais le quart de ça, tu te fais plaquer au
cul. La victoire insipide 1-0 face à la Finlande avant la Coupe du Monde. Jean-Michel Larquet et Thierry Roland avaient été très critiques sur le niveau de jeu des Bleus et les joueurs d'équipe de France ne voulaient plus parler à TF1. C'est Vincent Deluc qui leur rappelle ce matin. Dans les colonnes de l'équipe. Donc il y a eu parfois des moments comme ça, juste avant la Coupe du Monde, qui ont entraîné des petites frictions, mais qui peuvent aussi parfois servir aux joueurs.
Mais aujourd'hui justement, de par le précédent Jacquet, parce que derrière, effectivement, la presse s'est fait taper sur les doigts. Aujourd'hui, on y va beaucoup plus souple.
Rien à voir le traitement de Jacquet avec ce qui se passe avec Didier Deschamps. Hein, tout le monde a envie que ça se passe bien pour le coach français avant sa dernière Coupe du Monde. Tiens, on a Grégoire au 32-16 qui nous appelle de Tourcoing. Bienvenue dans les grandes gueules du sport, Grégoire.
Salut les GG, c'est un plaisir d'être avec vous.
Bonjour.
Ça va, tout va bien. T'es serein ou quoi avant la Coupe du Monde?
Je suis assez serein, mais franchement, le spectacle que j'ai vu, franchement, ça m'a déçu. Pour répondre à la question, les professionnels doivent toujours se remettre en question, et notamment quand on joue en équipe de France. Je remets pas tout en question, le parcours des Bleus, Didier Deschamps, etc. Par contre, il faut se poser et se dire, le spectacle qui a été proposé, je suis désolé, mais c'est d'une tristesse. Vous disiez tout à l'heure qu'on a 2 11 titulaires. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si on avait 2 11 titulaires, on n'aurait pas eu un tel spectacle en deuxième mi-temps. Mmh. Et à mon humble avis, hein, je suis qu'un petit Tourquennois supporter de Lens et de l'équipe de France, passionné de football.
Ah, tu sais, Fred vient de Limoges, hein.
Non, mais j'habitais à Tourcoing, moi. Moi, j'habitais pendant un an à Tourcoing, j'adore, donc j'adore Tourcoing.
La belle ville de Tourcoing. Mais à quoi ça sert de faire autant de changements? À quoi ça sert? Franchement, moi c'est ça qui me sidère, c'est qu'on est, on n'est pas un club où on est en train de préparer une saison. Non, là, il faut peaufiner l'équipe pour pouvoir être prêt pour le France-Sénégal. Et on fait des changements, des 10 changements qui n'ont aucun intérêt. En deuxième mi-temps, ces joueurs-là vont jamais jouer ensemble.
Ouais, mais en même temps, Grégoire, si tu vois Olise jouer 90 minutes, tu vas pas dire, oh là là, mais il va se blesser, Olise, là, il faut qu'il se calme, le sélectionneur.
Non, mais je suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'il y a besoin de faire 10 changements? Non,
ouais, les 10 ajustements,
c'est incroyable, vraiment.
C'est après, pour équilibrer les temps de jeu.
Ils sont partis pour un mois, pour être ensemble pendant un mois. Donc, il y a un besoin de participation et de mise en pression de tout le monde.
Grégoire.
Ça donne ce spectacle-là, et puis oui. Lundi, moi je voulais peut-être aller voir le match, et puis je me dis finalement, parce que c'est à côté, hein, forcément c'est à Pierre-Mauroy.
Et je me dis
finalement je vais peut-être regarder à la télé, parce que si c'est pour voir un turnover et un spectacle en deuxième mi-temps, on est d'accord, les gars, franchement.
On verra moins de turnover.
Il y aura moins, je pense. Hein,
il y aura de moins en moins. Plus on va s'approcher des échéances, il y aura de moins en moins.
C'est la dernière du Didier Deschamps avec l'équipe de France sur le banc.
Déçu du spectacle.
Merci d'avoir appelé au 32-16, Grégoire, déçu du spectacle. C'est globalement un peu quand même le sens des messages que je reçois sur WhatsApp depuis tout à l'heure, même si personne, et c'est pas le cas autour de la table, je le rappelle encore, ne veut s'alarmer du niveau de jeu. Il y a plein de circonstances, effectivement, atténuantes pour remettre en question le niveau de jeu que l'on a vu avant-hier face à la Côte d'Ivoire. Tiens, moi juste, vous avez préparé autour de la table des grands événements, des grandes courses. Fred, toi, je sais pas, est-ce que ça t'est arrivé avant un championnat du monde, avant des Jeux Olympiques, justement de rater un match amical, de rater un match de qualif, et est-ce que ça veut dire quelque chose, justement?
Ça peut vouloir dire quelque chose, mais en tous les cas, il faut une remise en question. Moi, je me rappelle que pendant la préparation des Jeux Olympiques, on prend 20 par les Yougos, qui étaient des Yougoslaves à l'époque et pas des Serbes. Et c'est vrai qu'on se dit, ça y est, on va se faire tuer, on va se faire massacrer, on va aller au JO très très mal. Et finalement, on travaille, on essaye de se remettre. Eux se font éliminer par chance et on est très content de ne pas les retrouver sur notre chemin.
Mais ça a entraîné une remise en question chez vous, bien sûr. Ça vous a mis en alerte.
En fait, on était plutôt confiants, sereins, et d'un seul coup, tu prends un coup derrière la nuque. Alors,
c'était l'un des favoris, la Yougoslavie.
C'était l'un des favoris, mais surtout, t'en prends 20, c'est un gros coup sur la tête. C'est quand même plus important que ce qu'il en était. Mais réellement, tu dis, t'y vas pour faire de la figuration aux Jeux Olympiques, et c'est difficile de se remettre vraiment dans le bain, de retravailler. On a fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup travaillé, on s'est basé sur ce match. Il y avait eu beaucoup de turnover aussi, évidemment, sur les premiers matchs de préparation, on a toujours beaucoup de turnover, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de turnover, mais honnêtement, je pense que c'est important de réfléchir, de se stabiliser, de dire, ok, c'est pas grave en soi, mais prenons les exemples des mauvaises choses et travaillons dessus.
Marc, je disais avant entre nous, moi je trouve quand même que c'est pas totalement anodin et neutre que Didier Deschamps, il y a une semaine, ait dit attention, n'appelons pas à la finale tout de suite le rendez-vous. Je pense pas que c'est que pour le public et pour les suiveurs, c'est peut-être aussi pour les joueurs, et peut-être que la déclaration de Ryan Cherki dit quelque chose. Est-ce que ça se sent, ça, toi comme manager d'équipe, évidemment, directeur sportif, évidemment. Est-ce que t'as vu avant des compétitions où vous étiez favori avec ton équipe FDJ, t'as vu des coureurs qui avaient un peu le teston, qui se sont vus gagner?
D'euphorie, de facilité. Et ce qu'il faut éviter par rapport à ce genre de situation, c'est la facilité. Il faut rester sous pression, il faut rester avec à l'esprit le fait que ça va être difficile, le fait que ça va être dur. On n'est jamais dans la facilité.
Et comment tu le vois, ça, qui sont dans la facilité?
Tu sens parfois parce que tu as eu un bon résultat, parce qu'il y a un optimisme, parce que tout le monde a le sourire, parce que tout va bien, parce que tout roule, parce que tout coule. Limpidement, c'est justement le moment où il faisait attention, il peut se passer quelque chose de pourri derrière.
Là, t'es en alerte, toi, du coup, comme
quand j'étais coureur ou après avec l'équipe, je suis toujours en alerte, moi. Je suis toujours.
Mais qu'est-ce que tu fais, du coup? Tu tapes du poing sur la table? Tu dis, oh les gars, réveillez-vous?
Au moment où tu vas t'adresser à tes coureurs ou à tes joueurs, tu rentres dans un discours, tu leur rentres dedans. Tu leur rentres dedans, tu les remets face à la situation, face à la réalité, face à la difficulté. Même si on est bon, on va avoir des difficultés. On va forcément rencontrer des difficultés. Donc il faut être prêt à affronter ces difficultés. Et si tu t'éloignes de ce schéma-là, tu te mets en situation à risque. Tu mets tout ton groupe et tu te mets avec eux en situation à risque.
Mais c'est drôle ce que tu dis, Marc, parce que je vis ça dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que moi, mieux ça va dans ma vie, plus je suis stressé. plus je m'inquiète de ce qui va me tomber dessus, de ce que et effectivement c'est ce qu'on est bâti comme ça les sportifs de haut niveau. En fait, on a peur quand ça va bien, parce qu'on se dit
qu'il y a toujours un truc,
il va y avoir un problème dans le potage.
Quand tout va bien, il va forcément y avoir un truc qui va pas aller dans pas longtemps.
D'un autre côté, la mentalité.
Quand tout va bien, en règle générale, quand tout va bien, les joueurs sont plus à l'écoute. Hein. Donc quand tu tapes un peu, quand tout va bien, en règle générale, ils le supportent davantage que quand tout va mal. C'est toute la subtilité du manager, en fait. Et là, on peut tous dire ce qu'on veut, Didier Deschamps, il a cette subtilité-là qu'on voit peut-être pas toujours au travers de ses interviews qui, de temps en temps, peuvent être ennuyeuses pour le commun des mortels. Il a l'art du management et franchement, je pense que cette équipe, comme toutes les sélections nationales qu'il a eu à diriger, il les a dans les mains, en fait. C'est lui le boss, c'est lui qui va insuffler le bon tempo au bon moment pour que l'équipe de France soit présente au rendez-vous de cette Coupe du Monde.
Chris. Ouais, non, je disais la mentalité des joueurs français, des équipes de France, c'est quand elle arrive en position de favorite, c'est jamais très très bon pour la suite. Moi, j'ai souvent vu ça avec l'équipe de France de rugby, qu'on pensait qu'elle allait marcher sur ses adversaires, et l'excès de confiance fait que de temps en temps, on a tendance à se relâcher quelque peu. Et je pense que c'est un peu dans la mentalité française, et c'est le genre de
c'est en train de changer. Ça allait de moins en moins. Moi, je me suis rendu compte de plus en plus que même quand on est favori, on arrive à performer. Et c'est vrai qu'avant, à mon époque, favori, c'était mort. On allait perdre, c'était sûr. Sauf que maintenant, on arrive à rebondir. Et la mentalité des joueurs, des sportifs qu'on a en France maintenant, elle évolue
beaucoup. Mais moi, je comprends tout à fait ce que veut dire Christophe. On a tellement été traumatisé par ça que c'est un peu chevillé au corps, quoi. Sur l'ADN français. Alors, puisque du coup, on a perdu la place de numéro 1 en classement de la FIFA. Hein.
Mais ça, c'est plutôt bon signe.
L'Argentine,
Bon signe.
Ouais, parce que jamais une équipe n'a été championne du monde en étant numéro 1 au classement FIFA dans la compétition. Bien joué, Didier. Il fallait perdre ce match.
Il y en a beaucoup qui se sont succédé à elles-mêmes en tant que championne du monde.
Le Brésil. Tu me poses une colle. Je sais que l'Argentine ne l'a pas fait. Mais après. Peut-être que ce serait une question dans les jeux. Hein. Peut-être. C'était pour ça que je réponds pas.
Peut-être dans
L'Italie l'a fait.
Oui.
On y répondra dans les jeux tout à l'heure.
34-38, je crois.
34-38.
Il n'y avait que vous deux qui étaient nés.
Tiens, je vous rappelle qu'RMC Summer Mode Coupe du Monde, vous ne raterez rien sur notre antenne avec tous les matchs en direct, même pendant la nuit. RMC ne dort pas puisque toute l'équipe de l'After sera aux États-Unis. On aura la radio digitale 100% Coupe du Monde également pour suivre tous les matchs en intégralité. Et puis aujourd'hui, tout le week-end sur notre antenne, vous remportez votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec ses 350 stickers. Toutes les 30 minutes, un gagnant est tiré au sort. Alors, envoyez dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16. J'en vois plein qui ont les yeux qui scintillent. Quand je parle des vignettes Panini, ça fait rêver tout le monde. Allez, on revient dans un instant. Le zapping, on va aller à Monaco pour la Formule 1. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Dans un instant sur le ring des GG, est-ce que ce Roland Garros fait du bien au tennis? Finale féminine inattendue aujourd'hui à 15h entre Jvalinska et Andreeva. On vous attend sur le compte X des GG pour voter. Mais tout de suite, vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. La Formule 1, c'est le Grand Prix de Monaco ce week-end. Marc,
on s'en fout pas, on peut pas.
Là, j'aurais halluciné, je me suis mis, il est malade. Christophe,
je ne m'en fous pas une seule seconde.
Pascal. Il en fout pas. Ouais. Fred.
Je m'en fous pas.
C'est un dossier, c'est incroyable.
Non, je l'ai vu en plus, ce Grand Prix.
Tu l'as vu?
Ouais.
T'as été invité?
J'ai été invité une fois, ouais.
Allez. Ça va être génial.
Ouais, c'était génial.
Comment ça, t'as été invité pourquoi?
J'ai été invité, je peux pas dire pourquoi.
Dis-le sans citer la marque.
Et une marque de cigarettes.
Ah, d'accord, à l'époque où t'avais un bureau de tabac.
À l'époque où j'avais un bureau de tabac, ouais. C'était fantastique.
C'est magique, hein.
Ah, ouais, c'est dingue, ça. Attends, mais il est toujours là, en fait, Fred.
Comme Denis Charvet, qui est d'ailleurs aujourd'hui au Grand Prix de Monaco tout le week-end.
Ouais, exactement.
Alors, je sais pas si c'est par un cigarettier ou par un marchand de lunettes ou par un fabricant de yachts, mais en tout cas, il est là-bas. Il est invité, t'inquiète. Il doit se gaver de petits fours en ce moment.
Il sera forcément dans un endroit improbable en plus.
Sur un bateau avec des petits fours et du champagne, moi je l'imagine très bien.
Et dans le tunnel, un truc comme ça, il est bon ce Hamilton. Il n'ira pas Hamilton parce qu'il va se tromper sur le nom. Qualification aujourd'hui à 16h, départ du Grand Prix demain à 15h. Nico Paolorsi est l'envoyé spécial d'RMC sur place, le chanceux. Salut Nico.
Il a eu plein de
salut les amis. Salut à tous. Sachez que je n'ai pas croisé Denis.
crois croiser Denis, il doit être avec la Jet Set.
Vous ne vivez pas dans le même monde, à mon avis.
Nico n'est pas tout à fait sur un yacht, hein, je vous le dis. Nico, les Ferrari sont en grande forme en plus depuis leur arrivée sur le rocher. Hein.
Oui, totalement. Et on peut dire avant la séance de qualification que les deux pilotes Ferrari sont les deux grands favoris pour cette course de Monaco. Vous savez que tout se joue le samedi à Monaco. Charles Leclerc a dominé la première séance d'essais libres, 2 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton. Et dans la seconde, c'est Lewis Hamilton qui a signé le meilleur tour devant Leclerc. En embuscade, il y a Max Verstappen et les Mercedes sont derrière. Et c'est un peu ce qu'on nous soufflait dans les oreilles avant d'arriver à Monaco. Ferrari est très rapide, notamment en virage. Elle arrive à conserver une vitesse assez folle, cette Ferrari, dans les virages. Et donc à Monaco, sur ce circuit très spécifique, il y a vraiment un avantage pour la Scuderia. Peut-être une deuxième victoire de Charles Leclerc donc à domicile. Il a déjà gagné chez lui et c'est vraiment l'icône ici à Monaco. Il n'y en a que pour Charles Leclerc, hein, avec des appartements qui sont décorés aux couleurs de Leclerc. C'est vraiment une ambiance à part Monaco, franchement.
Ouais, évidemment, Leclerc qui vient de prolonger son contrat avec Ferrari. Marc, ça t'excite de voir la Scuderia performante juste avant le Grand Prix à côté de la frontière italienne là ?
Ah ouais, ça va être bien ça. Ça va être bien parce que je pense qu'on va avoir un beau petit match entre Hamilton et Leclerc. Leclerc joue à domicile puisqu'il est monégasque. Mais je pense qu'Hamilton a une occasion de refaire surface en s'imposant à Monaco avec Ferrari. Il va pas laisser le passage à Leclerc. Donc la pole va être déterminante. Et même en ayant la pole, ce sera pas encore gagné pour l'autre concurrent de Ferrari.
Ouais, Christophe, Hamilton, podium à Montréal. On rappelle sur le dernier Grand Prix. En vrai, ça ferait du bien à la Formule 1 qu'Hamilton revienne à plus haut niveau.
Bien sûr,
là.
Ça ferait du bien à la Formule 1. On rappelle qu'Hamilton, en plus, est très à l'aise sur le circuit de Monaco, puisqu'il a remporté 3 fois le Grand Prix. Que sa monoplace semble effectivement en progression. Que lui a, semble-t-il, retrouvé un peu ce qui faisait sa force, la niaque, il y a quelques temps. Il a vraiment eu du mal à s'habituer à cette voiture, mais elle a fait beaucoup de progrès. Et là, je pense que ça peut nous donner lieu à une belle bagarre. Il y aura donc les deux rouges, il y aura les deux grises aussi, parce que là aussi, ça peut frotter entre Russell et Antonelli. Pour l'instant, leur manager dit qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, à condition évidemment de ne pas se rentrer dedans, mais on risque d'avoir des oppositions entre voitures de la même écurie.
Et on va voir si Antonelli est toujours euphorique, parce qu'il a quand même eu un début de saison fantastique et une réussite totale. Je pense que Monaco
peut être
un...
Il a été bon hier, Marc.
Ouais, mais ça peut être un tournant. Ça peut être un tournant.
Ouais, mais là, il y aura des supporters italiens.
Moi, il y a un truc qui m'excite. C'est les 30 ans de la victoire d'Olivier Panis.
Oh là là,
c'est ça qui me rappelle la dernière victoire française.
Et la dernière victoire du Niger.
En plus, oui, bien sûr. Mais c'est incroyable. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Alors que franchement, la Formule 1 à l'époque, je regardais pas énormément. Et ben à cette époque-là, ça m'avait marqué parce que c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc moi, ça m'excite.
Oh là là, la victoire d'Olivier Panis, c'était incroyable.
C'est fantastique.
Sous la pluie. Il y avait un concours de circonstances.
Ah oui, bien sûr, il y avait tout.
Le Grand Prix de Monaco qui reste marqué dans ma tête, c'est celui où Ayrton Senna débutant à bord d'une Tolman, une espèce de vieille voiture qui marchait pas du tout. Et bien sous la pluie, il fait des ravages,
des miracles.
Il double tout le monde, il double tout le monde. Et au moment où il va passer en tête et doubler
Jackie X,
qui est le patron de course, décide d'arrêter la course parce qu'il dit qu'il pleut trop. Et c'est le plus grand vol manifeste à l'égard de Ayrton Senna. Et c'est sans doute là que la légende Senna est née.
Qualif à 16h aujourd'hui, Nico. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on suit ça avec toi et on en parle demain, évidemment, avec Jean-Luc Roy qui sera avec nous pour parler. Ah ouais, effectivement. Allez, bonne journée sur ton yacht, Nico. On zappe.
Je m'en fous pas.
Qui de Vannes ou de Provence Rugby va monter en top 14, Pascal?
J'espère que c'est Provence, pour Philippe Saint-André.
Fred.
Mais ça va être dur.
Je pensais dire que je m'en fous, mais finalement, il y a Philippe Saint-André, donc je m'en fous pas trop.
Christophe?
Je suis très partagé parce que j'adore Philippe, j'adore son équipe, mais franchement, ce qu'a fait Vannes cette saison est extraordinaire. Franchement, c'est difficile de donner un favori, mais ce sera quand même mon filou.
J'ai l'impression que
je m'en fous pas du tout.
Le championnat de Pro D2 en France, tu finis premier, tu caracoles en tête et tu montes pas.
Bah oui, c'est comme le championnat de top 14, tu
là il s'agit de la deuxième division, le premier devrait monter. Enfin, c'est un avis.
Moi, j'ai un petit faible pour Vannes.
Pour Vannes, ah bah oui, évidemment. Donc, ouais, donc c'est la finale ce soir à 18h entre Vannes et Provence Rugby. Hein, c'est Aix-en-Provence. Ce sera suivi sur RMC en direct depuis Ernest Vallon, c'est à Toulouse. Vannes a survolé, vous l'avez dit, la saison régulière. Ils espèrent remonter un an après leur défaite. Provence Rugby, avec son manager qui est une GG, Philippe Saint-André, espère une première montée dans l'élite. Tiens, Philippe, hier en conférence de presse.
Ah, vous n'avez pas cru en nous. Boscato Show, ils m'ont appelé hier. Ça fait 10 mois que je les attends. Non. Ce que je dis, et je le répète depuis le début de saison, on est des outsiders ambitieux. Mais bon, même en début d'année, on n'était pas dans les 4-5 prétendants, donc on reste là-dessus. On aurait voulu finir second, hein, avec 92 points normalement. Sur les 10 dernières années, tu finis second, mais par contre, ce que j'ai dit à mes joueurs, il y a 30 journées, et après il y a une nouvelle compétition. Il y a 30 journées, et après quart, demi et finale. On est en finale, on est là, on va jouer contre une très grande équipe, qu'on respecte, mais on vient pas en victime, voilà. On vient pour faire un match de rugby.
Ah bah oui, avec la possibilité effectivement de renverser sur un match l'équipe qui était le super leader.
Exactement. Alors ils peuvent accéder au top 14 en battant Vannes, et s'ils venaient à perdre, ils auront une deuxième chance au grattage avec une opposition face à Perpignan, puisque ils vont terminer 13e du top 14, et donc ce sera là aussi un sacré match.
Hein. Évidemment, on va suivre ça sur RMC, tout comme la dernière journée du top 14 aujourd'hui en multiplex ce soir à 21h, avec beaucoup de choses en jeu, et notamment l'UBB qui est au bord du précipice. On va en parler tout à l'heure, on va parler basket aussi. Voilà. Tout à l'heure, mon cher Fred, parce que Wemby aussi est pas dans la meilleure posture actuellement.
Oui, c'est compliqué.
Mais il veut y croire, Fred. Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport avec vous. On va en parler de Roland Garros aussi. Et on est évidemment au 32-16. On vous donne la parole. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.